tellement petit, mais encore là, je le remercie. Je remercie encore pour ce camp et tous ceux qui ont contribué à ce camp, c'est formidable. Moi, jusque-là, j'ai toujours cru qu'Escanotrap, c'était inhabitable. Parce que quand il y a une dizaine d'années, ça, j'avais rencontré Tim, il parlait de travaux et tout ça, mais au contraire, c'est tout à fait habitable et tout à fait agréable. Néanmoins, je vous invite donc ce soir à prendre vos Bibles dans le livre de l'Ecclésiaste. Et nous lirons au chapitre 3, les versets 1 à 11. Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 1 à 11. Et nous nous arrêterons en particulier sur le verset 11. Je vous ai dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voilà, ce sera donc le texte de ce soir, le verset 11. Mais avant ça, eh bien, sachons qui est la personne qui a écrit ce livre. Même s'il n'est pas forcément signé, il y a la signature évidente de Salomon. En particulier quand, dans les chapitres qui précèdent, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste décrit sa vie, dit qu'il a été roi à Jérusalem. Qu'il a fait des constructions, de grandes constructions, qu'il a bâti des maisons, qu'il a planté des vignes, qu'il a eu toute espèce de jardins, de vergers, d'arbres, qu'il a créé des étangs, des forêts, qu'il a eu des serviteurs, etc., etc. Et il nous parle aussi en filigrane un peu de son éloignement de Dieu. Et donc tout nous conduit à penser que c'est Salomon qui a écrit ce livre. Il n'y a pas vraiment de raison d'en douter. Et nous avons donc là l'écrit d'un homme qui a expérimenté la vie et qui a expérimenté dans la vie dans un degré avec un degré de matérialisme très avancé et qui semble avoir eu tout ce qui pourrait satisfaire un être humain qui est sans Dieu en particulier. De bien des manières, Salomon, la vie de Salomon ressemble de bien des manières à ce que l'être humain, surtout l'être humain occidental aujourd'hui, recherche. Les plaisirs, les richesses, la grandeur, la gloire. Et pourtant, la conclusion de Salomon, eh bien, c'est que toutes ces choses sont vanité. Il y a cette parole à laquelle je pense dans la Bible où il est dit que rechercherait de grandes choses, ne les recherche pas. Lui, Salomon, a eu toutes ces grandes choses et il a constaté qu'elles étaient vanité. Mais il a aussi constaté autre chose, c'est que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et je crois que vous êtes tous animés de cette pensée ce soir, c'est qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie, qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus durable, de plus fort, je dirais, pour l'être humain, et que nous n'avons pas tout saisi dans cette vie, et qu'il y a une éternité à venir, la pensée de l'éternité. Et j'aimerais voir avec vous quelques-unes des choses qui entretiennent en l'être humain la pensée de l'éternité. Et j'espère que ces réflexions pourront nous aider dans notre témoignage par rapport à nos contemporains. Alors, une des choses qui est évidente, qui entretient la pensée de l'éternité, et je crois que c'est la création que Dieu a donnée. Les choses créées par Dieu, eh bien, nous font constater qu'il doit y avoir quelque chose au-dessus de nous, une puissance plus grande, une puissance créatrice, éventuellement une puissance qui soutient toute chose. Et c'est pour cela qu'il y a des religions dans le monde, même si elles tendent à être de bien des manières remplacées par un système de plus en plus matérialiste. Il y a encore bien sûr des religions dans le monde entier, des religions à évangéliser pour nous, mais ces religions attestent qu'il y a effectivement cette pensée de l'éternité. Et dans Romains, un passage bien connu, Romains chapitre 1, l'épître aux Romains au chapitre 1, verset 19. Romains chapitre 1, verset 19. Nous lisons ces paroles de Paul. Romains chapitre 1, verset 19. Ici, Paul parle des païens en particulier. Il nous dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, ceux qui n'ont pas la loi de Moïse en particulier, qui n'ont pas la révélation de Dieu à travers un écrit, à travers la Bible, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusable. Il y a donc les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité qui se voient comme à l'œil nu. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul parlera de choses qui ne sont pas montées au cœur de l'être humain. Il parle là du salut, de l'annonce de l'évangile, mais il dit pour ce qui est de la création, eh bien, elle témoigne de la grandeur et de la perfection de Dieu. Pour nous, chrétiens, surtout si nous sommes instruits, en particulier dans le domaine de la création du monde, de la défense de cette doctrine, nous le savons, mais pour nos contemporains, cette idée que la création révèle la grandeur de Dieu, eh bien c'est une idée qui est obscurcie depuis leur plus tendre enfance, en particulier dans les écoles, puis après dans les collèges, par la théorie de l'évolution. Mais la Bible est très claire, la puissance éternelle de Dieu, sa divinité se voit comme à l'œil nu, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc il y a cette création qui est là pour nous dire qu'il y a quelque chose de plus grand. Tout cela, normalement, l'être humain confronté à ces choses doit se dire que tout ça n'est pas venu par hasard, ne peut pas être le fruit du hasard. Regardez encore avec vous quelques passages d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 40. Où Ésaïe ici interroge un peu entre autres, les faiseurs d'idoles, mais aussi sa nation d'Israël pour leur rappeler l'existence et la grandeur de Dieu. Et en Ésaïe 40, il y a toute une série de questions qui est posée à l'être humain, à Israël en particulier. Ésaïe 40, verset 18, nous est dit: à qui voulez-vous comparer Dieu, et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Et donc il y a cette interpellation d'Ésaïe qu'il adresse à Israël. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Et le constat, bien, ça ne peut pas être des idoles, ça ne peut pas être un objet tellement petit, tellement fragile. Il parle de ce bois qui résiste à la vermoulure ou autre. Toutes ces choses, l'être humain, par expérience, constate qu'elles disparaissent, qu'elles sont sans force, qu'elles sont sans puissance. Ou si son raisonnement était droit, il devrait le constater. Et il y a là, bien sûr, la marque profonde du péché en l'être humain. Eh bien, au lieu d'aimer Dieu, il choisit, il se fait des idoles, il pervertit l'œuvre de Dieu. Encore en Ésaïe, au chapitre 44 et au verset 18 et 20, et au verset 18 et 20, donc là il parle de ceux qui se font des idoles, ou qui rendent un culte à des idoles. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire: j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste je ferai une abomination, une idole. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres et son cœur abusé l'égare. Il ne sauvera point son âme et ne dira point: n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans la main? Et l'être humain n'arrive pas à constater que c'est du mensonge qu'il a dans la main, que ces choses sont impuissantes. Cela devrait être évident à son esprit. Et non, il dit, il ne rentre pas en lui-même pour réfléchir. L'homme est tellement attaché à son péché, attaché à sa fausse image de Dieu, attaché à son idole, qu'elle soit matérielle, ici, visuelle, que ce soit une statue, ou aujourd'hui, que ce soit nos plaisirs, l'amour du monde, l'amour de cette vie. L'être humain est tellement attaché à ces choses qu'il ne rentre pas en lui-même et son cœur abusé l'égare. Et il y a donc cette contradiction en l'homme, il y a cette pensée de l'éternité. Ben oui, il doit bien réfléchir quelque part, il y a cette création, il devrait réfléchir, puis il y a la perversion de ce que Dieu fait. Il y a la marque profonde du péché en l'homme. Donc la création est là pour témoigner, pour interpeller l'être humain, pour entretenir susciter cette pensée de l'éternité. C'est le philosophe Emmanuel Kant, même s'il était loin d'être fidèle au message public, qui disait, ou qui a même écrit sur sa tombe, je crois qu'il a fait écrire sur sa tombe, « Il y a deux choses qui m'émerveillent, c'est la loi de Dieu au-dedans de moi et la voûte étoilée au-dessus de moi. » Et bien des êtres humains ont été obligés ou se sont dit poussés à réfléchir à cela. Cela ne veut pas dire qu'ils soient des gens sauvés, mais cela atteste clairement que l'être humain a en lui la pensée de l'éternité. Il a en lui cette pensée, c'est quelque chose que Dieu a gravé profondément dans sa nature. Il a voulu qu'il en soit ainsi. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, que l'homme pense à l'éternité. Confronté à la souffrance, ou même simplement parce qu'il souhaiterait bien souvent que sa vie se prolonge, l'être humain est confronté à cette pensée, la pensée de l'éternité. L'apôtre Paul, qui était bien sûr évangéliste parmi les nations païennes de son temps, a bien sûr dénoncé l'idolâtrie, mais il a aussi attesté de ça. On voit dans le livre des Actes, au chapitre 14, Actes chapitre 14, c'est le passage où Paul et Barnabas sont à Lystre, Actes chapitre 14, et ils accomplissent un miracle, et les païens, remplis de leurs pensées idolâtres, veulent leur faire un sacrifice. Et la réaction de Paul et de Barnabas, bien sûr, est celle-ci, verset 14. « Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, qu'ils voulaient leur faire un sacrifice, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Donc, ici, Paul dit bien que Dieu n'a cessé de rendre témoignage de qui il est, de sa nature, de sa bonté. Il a dispensé les pluies, les saisons fertiles, vous donnant la nourriture en abondance et remplissant vos cœurs de joie. Il dit tout ça, c'est Dieu qui le fait. Cela aurait dû faire réfléchir ces païens en tous les cas. Dieu a rendu témoignage de ce qu'il est. Paul dit, dans les âges passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Paul dit, il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Mais s'il y a ces choses qui doivent rendre témoignage à l'être humain, il y a bien sûr la révolte et le péché, et la chute de nos premiers parents, mais aussi la désobéissance continue de l'être humain. Et il y a les souffrances qui s'en suivent. Mais ces choses, encore une fois, eh bien, sont là, non pas pour nous détruire, on peut se poser la question pourquoi la souffrance, pour notre destruction. Non, ces choses sont là pour nous faire aspirer à quelque chose de plus durable, et quelque chose de plus normal pour l'être humain. L'être humain a la nostalgie du paradis perdu, d'un lieu où il est en sécurité, où il n'est pas constamment en danger, où il peut s'épanouir. Il a en lui ce désir d'un endroit sûr, d'un endroit paisible, d'un endroit où il se sente chez lui, d'un endroit où il ne se sent pas menacé. Et combien l'être humain se sent menacé, même nous, avec tous nos biens matériels, nos maisons, nos portes, nos systèmes d'alarme, de sécurité, on peut se sentir menacé. Encore plus pour ceux qui vivent dans des zones plus dangereuses. Je pense au titre d'un livre, Ces hommes ont peur, un protestant qui avait été missionnaire et qui parlait des gens en Afrique, il disait Ces hommes ont peur dans la jungle, en Afrique, confronté à tous les dangers qui se présentent. L'être humain a peur. C'est une des données de l'être humain. Et Paul dit même que toute la création aspire à quelque chose de mieux. En Romains au chapitre 8, Romains 8, 19, je dis aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas que Paul était animiste, qui croyait que chaque objet, chaque chose avait une âme ou autre, mais il parle de la création, il y a dans une certaine mesure un peu une allégorie, mais il ajoute... car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Donc si c'est évident pour nous qui sommes chrétiens, nous aspirons à autre chose, Paul dit aussi que la création tout entière, finalement, est dans les douleurs de l'enfantement, et il y a quelque chose d'anormal dans la création. Il y a les choses les plus belles, les plus merveilleuses, les plus attendrissantes peut-être, les plus magnifiques. Et il y a aussi la cruauté, il y a aussi la méchanceté, il y a toutes ces choses dans la création, il y a cette marque du péché. Il y a donc cet état assez anormal pour l'être humain et pour l'ensemble de la création, qui fait que tout dans ce monde doit nous faire aspirer à quelque chose de mieux, à un mieux-être. Nous goûtons quelque chose d'extraordinaire chaque jour, quand nous mangeons, quand nous respirons, quand nous bougeons, quand nous partageons avec notre prochain, quand nous communiquons, quand nous prenons un enfant dans nos bras, un bébé dans nos bras. Et il y a aussi tout ce processus de vieillissement, toute cette souffrance, toute la maladie qu'il y a. Il y a ce côté merveilleux et il y a toutes ces merveilles qui nous échappent. Toutes ces merveilles qui nous échappent et on ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu de cassé? Et oui, il y a eu la chute, il y a eu le péché et il y a encore le péché aujourd'hui. Et tout cela néanmoins devrait nous faire aspirer, nous faire désirer quelque chose de meilleur, quelque chose de plus durable, quelque chose de plus adapté, quelque chose de plus grand, et devrait nous faire aspirer à connaître notre Créateur. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et toute la condition humaine tend à cela. Et toute la révolte de l'homme tend à nier ce fait. Et notre société occidentale, en particulier antichrétienne, tend à nier cela. Parce que nous sommes dans une société antichrétienne de bien des manières, opposée à Dieu, opposée à la foi, opposée
à Jésus-Christ.
Mais revenons dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, chapitre 3. Une autre affirmation très importante sur l'être humain. Donc il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il a donc dans l'être humain et dans la condition humaine cette pensée qui nous pousse à vouloir l'éternité. Mais aussi cette autre affirmation, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Quelque part, Dieu nous a bloqués dans un système où nous sommes obligés, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, à nous poser des questions sur l'au-delà. Il y a la mort inéluctable. Il nous a bloqués quelque part dans un système comme cela. Et il nous a aussi limités dans l'espace et dans le temps. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes limités dans l'espace et dans le temps. Vous n'êtes pas à plusieurs endroits à la fois. Et les minutes qui sont passées, nous ne pouvons pas les revivre. Je crois que nous sommes d'accord. Là, je ne suis pas actuellement au Venezuela pour savoir ce qui s'y passe. J'aimerais peut-être savoir ce qui s'y passe. Je pense à notre frère Vincent Bourrel. Samuel. On aimerait savoir ce qui s'y passe, par exemple. Je ne suis pas aux États-Unis pour savoir ce qui s'y passe. Même si j'allume CNN, j'ai peut-être l'impression de savoir ce qui s'y passe, mais c'est une projection de ce qui s'y passe. Je suis limité dans l'espace et dans le temps. Vous l'êtes comme moi. Et l'être humain cherche à s'affranchir de cette limitation, et en particulier nos contemporains cherchent à se donner l'illusion qu'ils maîtrisent le passé, qu'ils maîtrisent leur futur, et qu'ils savent, ils cherchent à savoir, à avoir l'impression qu'ils savent ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Ils cherchent à s'affranchir de la condition que Dieu nous a donnée. La Bible dit, Ecclésiaste dit, l'homme ne peut pas saisir du commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu fait. Nous ne pouvons pas connaître à fond le passé, ça n'est pas possible. On ne peut pas remonter dans le temps avec une caméra Hitachi ou Sony et filmer ce qui s'est passé. Si nous pensons connaître tout du passé, c'est une illusion. Nous n'en avons pas la capacité. Peut-être nous avons cette impression parce que nous sommes des occidentaux, même si nous sommes chrétiens, et nous sommes en fait vraiment limités. Il ne faut pas savoir, par exemple, ce que Napoléon disait sur le champ de bataille de Waterloo. Ça m'échappe. Peut-être qu'il y a eu quelques notes de prise, mais c'est limité ce que je peux savoir, c'est fragmentaire. Donc je ne peux pas le savoir. Et s'il y a des choses que je sais, des choses qui sont importantes et que je sais à travers la Bible, c'est tout ce que Dieu a voulu nous donner, nous dire et nous révéler. Il y a un verset qui dit, donc je crois que c'est dans l'Exode ou le Deutéronome, les choses révélées sont à nous, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et nos enfants. Donc Dieu a révélé certaines choses. Il a révélé ce qui est important pour lui, ce qui est important pour nous de connaître. Mais il n'est pas essentiel que nous sachions tout du passé, que nous soyons capables de reconstituer tout le passé. Ce qui est important, c'est que nous connaissions ce que Dieu a révélé dans sa parole. Et l'être humain se leurre quand il pense pouvoir tout reconstituer du passé. Prenez, si vous voulez, un verset dans Genèse 17. J'ai dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Est-ce que ça a été enregistré? Ce soir-là, il y avait quelqu'un pour enregistrer ce que Dieu disait à Abraham? Non, mais en tout cas, on en voit l'accomplissement à travers les siècles, à travers la nation d'Israël, à travers tout ce qui s'est accompli. Puis ce sont des choses que Dieu a révélées. Mais l'historien, aujourd'hui, avec toutes ses capacités, toutes ses recherches, quelque part, il ne peut pas remonter dans le temps et vérifier l'exactitude de ces faits. Bon, il y a des choses qu'on peut vérifier. On peut vérifier que la nation d'Israël a vraiment existé. On peut vérifier ce qui a traversé le temps, sur les pierres, sur les inscriptions. Il y a des choses qui durent dans le temps, qui marquent beaucoup de gens et qui traversent les siècles. Mais il y a des tas d'événements qui échappent à l'être humain. Ce que Dieu disait en privé à Moïse, ce qu'il disait à Abraham, à moins que ça nous ait été transmis par la parole, par révélation, eh bien ça nous échappe. Et ça échappe aux historiens d'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas remonter en arrière. Ils n'ont pas cette possibilité. Il y a des tas de choses qui leur échappent. Il y a des choses qu'on peut corroborer. Et la Bible est extrêmement crédible. Je crois que c'est le livre le plus crédible qui soit sur le Moyen-Orient. C'est un livre exceptionnel, même à vue humaine. Mais il y a des tas de choses qui nous échappent. Et Dieu dit, bien, il n'est pas possible à l'homme de connaître absolument toute chose. Pour nous, par Christ, par la foi, par cette vie que nous avons eu transformée, parce que nous avons mis notre foi dans ce livre, nous avons accès à tout un monde que Dieu nous révèle. Mais l'être humain est tellement limité autrement. Il est limité à des théories, des suppositions, des reconstitutions, quelques morceaux du puzzle. Il n'a pas la possibilité de saisir du début jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu fait. Ce n'est pas possible. Cette parole de l'Ecclésiaste, je crois, concerne aussi le futur. L'homme n'a pas la maîtrise de son futur et Dieu s'est plu, à travers les pages de la Bible, à nous révéler les événements les plus importants du futur, les événements les plus utiles, l'enlèvement de l'Église, la dictature de l'Antichrist, le retour d'Israël, toutes ces choses, nous avons accès à certaines choses. Mais encore une fois, nous sommes aussi limités. Et Dieu veut aussi que nous vivions dans le présent en tant que chrétiens. Donc nous ne pouvons pas tout sonder. Nous ne pouvons pas sonder tout ce que Dieu fait. Si vous voulez prendre avec moi un autre verset dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean. Chapitre 7. Alors, je ne vais peut-être pas me retrouver. Alors prenons Hébreux, excusez-moi, prenons Hébreux. Chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. Jusqu'au verset 3, verset 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. S'il y a une chose que Dieu a voulu que nous puissions saisir, c'est cette œuvre de Christ, cette œuvre du salut. S'il y a une chose qui est tellement claire à travers la Bible et à travers le plan de Dieu, eh bien, c'est que Dieu a fait la purification de nos péchés. Nous ne sommes pas capables de saisir tout ce que Dieu fait. Je ne suis pas capable de saisir tout ce que Dieu fait dans vos vies. Dieu ne cesse d'agir dans vos vies. Il ne cesse d'intervenir dans chaque vie, dans ce monde. Il agit, il travaille en nous, de mille et une manières. Je ne suis pas capable de le saisir. C'est aussi pour ça que nous devons être prudents dans nos jugements. Et il y a certaines choses que nous pouvons savoir, et on a des tas qui sont cachées. Tim a parlé de ces choses qui sont cachées dans les ténèbres, qui seront un jour révélées, et d'autres choses qu'on peut connaître, qu'on peut juger. Mais si nous sommes limités, Dieu a fait en sorte que nous puissions saisir une chose, et la chose la plus importante, c'est que Christ a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et c'est ça qui est important pour nous, d'être conscient de la présence de Christ, d'être conscient de son amour, d'être conscient qu'il intervient en toute chose dans ce monde, parce qu'il est la parole de Dieu, parce qu'il est le créateur de ce monde, mais aussi dans nos vies. Il prend soin de nous, il s'occupe de nous. Et c'est de cela dont nous devons être le plus préoccupés. Dieu a fait en sorte, même pour les personnes qui nous entourent, eh bien, que ce soit une chose accessible. Mais accessible si nous sommes fidèles et si nous prêchons la parole de Dieu. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais il n'a pas tout dit à l'être humain. Même s'il a cette capacité, il nous demande aussi à nous d'être les témoins de l'Évangile, d'apporter l'Évangile. Je crois que Dieu pourrait agir de mille et une manières, et il agit de bien des manières que peut-être nous ignorons pour parler à l'être humain. Il y a une chose qu'il nous a confiée, c'est la prédication de l'Évangile. Et je terminerai par ce verset de Corinthiens, 1 Corinthiens. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1. Au verset 20. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Puis plus loin, verset 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et au chapitre 2, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. S'il y a une chose importante, une chose à laquelle Dieu tient par-dessus tout, bien c'est que la croix de Christ soit révélée, que le message de l'Évangile soit prêché. Et c'est la tâche que nous avons aujourd'hui. Dieu a fait mille et une choses pour préparer le cœur de l'homme. Nous, il nous demande de prêcher l'Évangile et de le prêcher aussi fidèlement que possible. Non pas de nous égarer dans des activités qui ne sont pas forcément utiles, non pas édulcorer le message de l'Évangile, mais prêcher Christ et Christ crucifié. Amen. Je ne sais pas qui va terminer, si on termine par un chant ou autre. Peut-être Adrien, tu voudrais conduire dans la... Tu viens?